Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 25 août 1989 à Saint-Jeudard.
Nous avons essayé de comprendre la signification de ces affirmations de Jésus dans la période des grandes luttes dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6 au chapitre 12, inclus, exclu, je veux dire, où Jésus affirme successivement « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis. Je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis le Fils de Dieu. Et en dernier lieu, je suis la résurrection. » Je vous avais dit, c'est très étonnant de voir qu'on retrouve le rythme qui était donné dans la première partie de la vie apostolique de Jésus, du chapitre 2 au chapitre 6, les éclosions de joie dans sa vie apostolique, le mystère de l'agneau, le mystère de l'époux, le mystère du Fils. C'est très curieux de retrouver sous des modalités différentes l'agneau, le pain, la porte, l'époux, la lumière du monde, le bon pasteur, et le mystère du Fils, je suis le Fils de Dieu. Mais ça met, comme j'allais dire, une sorte de manière de confirmer ce premier rythme qui est très net. Les deux grandes lumières qui viennent de Jean-Baptiste. L'agneau, l'époux. C'est Jean-Baptiste qui affirme « Il est l'agneau, il est l'époux. » Avec tout ce que ça implique dans la bouche de Jean-Baptiste, portant toute la grande tradition de l'ancienne alliance. L'agneau, c'est Isaïe. L'époux, c'est Osée. De Osée au cantique des cantiques, quand même de dire le Père Feuillet, qui est un des meilleurs exégètes. Quand vous avez des livres du Père Feuillet, ou des articles du Père Feuillet, il ne faut jamais hésiter de les lire. Et c'est le secret de toutes les prophéties de l'Ancien Testament que Jean-Baptiste remet en pleine lumière par rapport à Jésus. Et le Fils, c'est Jésus lui-même qui l'affirme. Et alors, on retrouve comme une sorte de pénétration plus profonde du mystère de l'agneau par le pain. Alors là, l'Église le dit. Voici l'agneau de Dieu à la messe. Donc, c'est bien le rapprochement. Quand le prêtre présente l'Eucharistie, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, il reprend les paroles de Jean-Baptiste. C'est les seules paroles d'un prophète de l'Ancien Testament qui est présent dans la messe. Ça montre ce rôle très particulier de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Donc, c'est le mystère du pain. Quant au mystère de la porte, c'est beaucoup plus Apocalypse. Et puis, c'est peut-être le le mystère du viatique, la porte. Ce que j'ai essayé de vous expliquer hier, c'est beaucoup plus mystérieux, c'est beaucoup plus caché. Parce que ça symbolise plus grossier. La porte. C'est Jésus qui est l'abri. C'est un évêque de là-bas qui était l'évêque de Bethléem à ce moment-là. Il voyageait avec lui de Bethléem à Haïfa. Ils ont parlé évidemment d'évangile. Et qui me disait, n'oubliez pas, Père, la porte pour nous, c'est l'abri. Parce que on est dans des grottes. Et dans des grottes, il n'y a qu'une porte à mettre. Il faut qu'on mette une porte, on est dans un abri. Il faut bien avoir tout ce sens. Il le disait, et c'est vrai du reste. À nous, on ne voit pas une porte comme ça, voyez. Au milieu d'un champ, une porte. Ça fait curieux, hein, on n'a qu'à passer à côté, quoi. Tandis que quand c'est une grotte, c'est tout à fait différent. La porte fait l'abri, la sécurité. Vous voyez, le pain et la porte. Les deux grandes sécurités. Quand on n'a plus de pain, quand on n'a plus d'abri, les sans-abri et les sans-pain. Si Jésus n'est pas là, et si Jésus est là, on a le pain. À l'abri. C'est tout le mystère de notre conditionnement. Parce que le conditionnement le plus terrible, c'est le pain et l'abri. Ça, c'est sûr. C'est le conditionnement qui nous tient, celui-là. On le sent bien en hiver. Le mystère de l'époux, c'est les initiatives. L'époux, c'est celui qui a toute l'initiative. Jésus nous a aimés le premier. C'est le rôle de l'époux. Il choisit l'initiative. Jésus est l'époux. Il est la lumière. L'époux doit être cette lumière intérieure, la vérité. Et il est le bon pasteur, celui qui gouverne. C'est tout le point de vue du gouvernement du Christ. Il connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Et c'est vrai, c'est ça le rôle de Jésus, époux dans son sacerdoce. Il nous a tous choisis, chacun d'une manière unique. Nous puissions l'aimer d'une manière unique, pour que nous puissions répondre à son choix, le bon pasteur. Alors ici, il faudrait regarder, n'est-ce pas, combien l'Ancien Testament ne cesse de nous rappeler Dieu comme bon pasteur, tandis que la porte, c'est tout à fait nouveau. Le pain et la porte. Là, on ne peut pas nier qu'il y a un apport tout à fait nouveau. Et l'agneau attribué à Dieu, c'est aussi tout à fait nouveau. Bien qu'on pourrait dire que l'agneau pascal, c'était quand même symboliquement le lien avec Yahvé. La porte, non. Et le point de vue du pain non plus. Et ceci, c'est pour que nous comprenions comment Dieu, par le mystère d'incarnation, peut nous faire comprendre le don de tout lui-même dans un holocauste d'amour. Oui, seule l'humanité sainte de Jésus peut être victime. Dieu n'est pas victime, c'est impossible. Victime de qui ? Victime pour qui ? Je ne peux pas être victime. Mais tout l'amour qui est exprimé dans l'état victimal du Christ à la croix, tout l'amour qui est exprimé à travers le mystère du pain de l'Eucharistie, tout l'amour qui est exprimé à travers le symbolisme de la porte, tout cet amour-là est présent dans le Père pour nous. Vous voyez, cette manoduxio, cette manière dont Dieu nous enseigne, nous avons tellement de peine à comprendre ce qu'est l'amour. C'est vrai, c'est la chose la plus difficile. Ceux qui prétendent aimer tout de suite comme ça, ils n'aiment pas. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'aimer vraiment, hein. D'aimer pour posséder, d'aimer pour jouir, c'est facile. Mais d'aimer pour se donner, c'est-à-dire se dépasser et s'oublier, c'est la chose la plus difficile. Vous voyez, on badine avec l'amour. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça qui manque le plus. C'est un véritable amour. C'est un amour qui va jusqu'à ce fait qu'on se dépasse complètement. Et on s'oublie. L'amour de jouissance, on possède. L'amour d'utilité, on possède. Tandis que l'amour véritable, c'est le don pour l'autre. Et ceci, pour en comprendre la gratuité, ça se traduit à travers un holocauste. Par là, nous comprenons comment Dieu, quand il nous aime dans une pure gratuité, dans un don absolu, sans rechercher la récompense. Nous, quand nous aimons, on veut que l'autre réponde. Tu vois bien que je t'aime, et qu'est-ce que tu fais? Dieu nous aime par pure gratuité. Et c'est ça l'amour. Dès que vous recherchez une réponse de l'autre, ce n'est plus l'amour. C'est pour ça que c'est si difficile d'aimer. Et c'est pour ça qu'il y a tant de divorces. Je suis persuadé que, au moment du mariage, ils ont prétendu s'aimer. Mais ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Un amour qui ne progresse pas est un amour qui se détruit. C'est le feu. Donc un amour demande de progresser indéfiniment. Et un amour réclame le sacrifice. Il n'y a qu'à ce moment-là où l'amour est authentique. Quand il est capable de se donner entièrement à celui. C'est vrai, quand c'est dans la joie, tout le monde est là. Quand c'est à la croix, il n'y a que ceux qui aiment vraiment. Jean, fidèle, Marie, les saintes femmes. C'est ça qui, je crois, est très important à comprendre. Parce que toute l'Écriture nous enseigne que Dieu est amour. Et veut nous faire comprendre la qualité de cet amour de Dieu. Et Jésus est venu comme fils bien-aimé pour nous apprendre à aimer et pour nous faire comprendre ce qu'est l'amour du Père et que cet amour du Père nous est donné à travers l'Esprit-Saint, à travers le cœur du Christ. Et que c'est cet amour-là qui doit posséder notre cœur, qui doit prendre possession de notre cœur. Un amour divin. Et alors, ces diverses présences de Jésus, ces sept présences, nous montraient les sept grandes modalités d'amour. Puisqu'on est présent à quelqu'un quand on l'aime. Et plus on l'aime, plus on est présent. Puisque la présence est une relation qui suit une action. Et l'action par excellence, c'est l'amour, qui est plus que l'action. Qui est aussi une contemplation. Et qui, quand l'amour est tout à fait pur, c'est une contemplation. ces sept modalités de présence nous montrent les sept manières dont le Christ nous aime. Il nous aime comme victime, il nous aime comme époux, il nous aime comme Dieu. Donc le bon pasteur exprime cette manière dont Jésus nous aime comme grand prêtre dans son sacerdoce. Il est le bon pasteur. Alors, il faudrait reprendre ici, nous n'avons pas le temps de le faire ce soir, mais c'est facile à faire, puisque maintenant les Bibles ont ordinairement de bonnes concordances, de relever dans Ézéchiel, surtout, tous les passages du bon pasteur, où Dieu est le pasteur de son peuple. Et on a justement cette manifestation de la tendresse du bon pasteur à l'égard des brebis fatiguées, à l'égard des brebis qui n'en peuvent plus, à l'égard des brebis, c'est dit le texte, qui sont mères, qui allaitent, qui portent leurs petits. Il y a un regard particulier du bon pasteur à l'égard de tous ceux qui ont plus besoin. Vous voyez, cette sollicitude de l'amour. Dès qu'on aime moins, on n'a plus cette sollicitude. On est présent à côté, oui, c'est possible. Mais on n'a plus ces prévenances, cette attention particulière. On devient un peu lointain. Quelque chose qui ne se fait plus. C'est un amour fervent, donc un amour. Le premier amour est fervent. C'est Saint Jean Climiac, l'échelle de la perfection, la grande spiritualité de Mont Sinaï, qui dit qu'un novice soit fervent, c'est normal. Un vieux moine fervent, c'est la sainteté. C'est très beau ça. Parce que c'est le premier amour qui est fervent. C'est le premier amour qui est fervent. Et je vous en supplie, pour le dernier soir, ne soyez pas comme ça, vous parlez tout le temps entre vous. On parle de sujets sérieux. Je sais bien qu'on est fatigué, peut-être à la fin de la session. J'aurais mieux aimé que vous ne veniez pas. C'est très dommage, je suis désolé. Mais je ne peux pas ne pas le faire. Je trouve ça tellement désolant quand on parle de choses si importantes pour nous, après toute une session, d'être comme ça. C'est grave, vous savez. Ça montre un dilettantisme, ça. Spirituel, et donc un manque de profondeur qui fait qu'on ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Et l'amour implique cette sollicitude profonde. On est donné, et alors on est attentif. On est attentif, l'intelligence est mobilisée par l'amour. Ça, les psychologues soulignent ça très fort. L'intelligence est mobilisée par l'amour. Quand on aime, notre intelligence est tout entière éveillée et on devient intelligent. C'est ça qui est très curieux. Les psychologues soulignent que de fait, quand il n'y a pas d'amour, il y a un arrêt d'intelligence. Et tout arrêt d'intelligence provient d'un manque d'amour. Oui, le dilettantisme intellectuel. Si on n'approfondit pas, on croit savoir, alors on va dans à droite et à gauche, ça provient de ce manque d'amour. On oublie qu'une personne humaine a un infini, un mystère. C'est vrai, c'est la personne qu'on aime. Et il y a un mystère, et surtout pour un chrétien, il y a un mystère de grâce et d'amour de Dieu. Il y a un poids d'amour de Dieu qui est quelque chose de très grand. Alors quand il s'agit du Christ, c'est le poids d'amour du Père pour son Fils. Et cet amour qui se prolonge sur les brebis. Marie, la première brebis. Parce que tout ça, ça nous fait comprendre l'amour de Jésus pour Marie. Il est le pain. Il est la lumière. Puisque c'est la première brebis. Le bon pasteur, la porte. Alors il faut comprendre que le bon pasteur implique cette tendresse, cette sollicitude d'appeler chaque brebis par son nom et d'être là pour offrir sa vie. Le bon pasteur donne sa vie. Et alors on rejoint le mystère du sacerdoce et le mystère de la victime. Les deux se tiennent. Et c'est pour ça que je crois que c'est dans la même parabole qu'il y a la porte et le bon pasteur. Puis j'ai toujours demandé pourquoi. Parce qu'à première vue, c'est tellement différent. C'est-à-dire pourquoi ? Ça complique. C'est tellement plus simple qu'il n'est que le bon pasteur. Non. Parce que ce bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et en donnant sa vie, il est la porte. Il enlève l'obstacle. Jésus enlève tous les obstacles. Les obstacles qui sont l'orgueil de l'homme. Qui sont notre suffisance. Qui sont tous les obstacles qui nous empêchent d'aimer. Et qui nous empêchent d'aller plus loin dans l'amour. Et Jésus, en tant qu'il est justement la porte, l'agneau, enlève tous ces obstacles. Et alors, il peut être parfaitement bon pasteur. La troisième affirmation, juste après cette parabole du bon pasteur, au chapitre 10, « Je suis le Fils de Dieu ». C'est Jésus qui rappelle que c'est parce qu'il est fils de Dieu qu'il peut être bon pasteur, qu'il peut être la porte. C'est parce qu'il est « je suis », étant fils de Dieu, il est « je suis ». Il peut être alors la lumière du monde et il peut être le pain. En dernier lieu, je suis la résurrection. Dites à Marthe, dans ce climat très particulier de Béthanie. C'est vrai, c'est un climat très spécial, Béthanie. On n'en parle pas beaucoup dans l'Évangile, sauf dans Saint Jean, et à la fin. Béthanie, c'est ces trois. C'est pas un ménage. C'est trois, les parents de Marthe, Marie et Lazare devaient être des parents très extraordinaires. C'est ordinairement quand les parents sont trop extraordinaires, les enfants ne se marient plus. Alors on voit ça. Ça ne veut pas dire quand les enfants se marient que les parents ne sont pas extraordinaires. Il ne faut pas renverser. Mais heureusement, tu vois. Mais ça arrive, ça. Je connais comme ça. Un père qui était. En même temps, tellement éloquent qu'il éblouissait tout le monde. Et quand il parlait, tout le monde se taisait. Il y avait lui qui parlait. Il était éloquent en plus. Alors ça augmentait la possibilité. Marthe, Marie, Lazare. Ça vous tombe du ciel, on ne sait pas du tout grand. Béthanie. Jésus aimait d'aller là. Jésus aimait, et on le dit. À la fin, Jésus a connu Béthanie bien avant la dernière semaine. Sûrement, c'était un lieu de repos pour Jésus. Est-ce qu'il venait souvent avec ses apôtres ? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet amour très spécial de Jésus pour Marthe. Il la corrige. Marie. Et devant la souffrance de Marie, et on voit bien le côté extrêmement familier qui devait exister, familiarité divine entre Jésus, Marthe et Marie, et Lazare. Marthe, parce que c'est elle qui a les initiatives, C'est elle qui tient la maison. Marthe a tout de suite envoyé un petit télégramme à Jésus. Lazare est malade. Elle savait où était Jésus, hein. Ça, c'est aussi ce qui montre bien la grande intimité. Parce que Jésus s'est écarté. À Jérusalem, c'était intenable. On ne pouvait plus respirer. Il y avait un climat de telle tension. On ne se rend pas compte suffisant, mais on voit bien ce que ça peut être. La tête de Jésus était mise à prix. Tous ceux qui connaissaient où il était devaient venir dire au Sanhédrin, à l'autorité religieuse, au grand prêtre. Et Jésus doit avoir un peu de paix, un peu de calme pour préparer Pâques, se retire au désert. Pas le grand désert, un petit désert, tout proche, pas bien loin. Et Marthe savait bien que Jésus avait tout son temps. Elle avertit Jésus et Jésus ne vient pas. Mais l'épreuve d'un véritable amour, ça n'a rien changé dans le cœur de Marthe et de Marie, dans leur amour pour Jésus. Mais l'épreuve a été dure. Et c'est pour ça qu'il y a tout de suite cette petite correction. J'allais dire une correction fraternelle dans l'amitié. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Ça dit tellement long, ça. Et Marie dit la même chose. Mais évidemment, l'Évangile ne te donne pas les tonalités. C'est l'Esprit Saint, la voix. L'Esprit Saint échappe au contrôle des exégètes. Puisque c'est la voix. Et la voix, elle n'a pas été enregistrée. Il n'y a que les paroles. C'est toute la liberté de l'Esprit Saint dans la voix. C'est très beau, ça. Parce que je suis persuadé, il suffit de regarder le texte, que Marthe a dit cette parole, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe l'a dit avec un ton un peu impératif. Quand même, tu aurais dû être là. Un peu désespéré aussi. Tandis que Marie a dû le dire autrement. Marie l'a dit. Tout simplement, sans aucun reproche, mais dans la souffrance. Et voyez, c'est ça qui est très étonnant. Laquelle prière a été entendue par le cœur du Christ? C'est la prière de Marie qui a touché le cœur de Jésus. La prière de Marthe n'a pas touché de la même manière le cœur de Jésus. Jésus l'a entendu. Et Jésus répond. Et il répond pour, j'allais dire, élever le cœur de Marie au-delà de la tristesse immédiate. Parce que Marie est perdue dans cette tristesse. Son regard contemplatif, son regard même d'amour à l'égard de Jésus, est un peu enténébré. Et Jésus tout de suite alors la remet devant une vérité. Je suis la résurrection. Et on voit très bien que Marthe a beaucoup de peine de comprendre ça. Elle le sait bien, elle le sait bien. Tandis que la prière de Marie touche le cœur du Christ qui pleure tout de suite. Et à partir de là, Jésus, dans son cœur d'homme, est ébranlé. Tellement il aime Lazare, tellement il aime Marie. Je crois qu'il aime encore plus. a ressuscité Lazare à cause des deux sœurs. Hein. Si les deux sœurs n'avaient pas été là, je ne sais pas si Lazare aurait été ressuscité. Et là, il y a les deux sœurs qui sont là. Et il est bien encadré. Hein. L'une qui a maîtresse femme et l'autre qui met une tonalité de douceur, de tendresse, d'affection. C'est tellement différent. Et Jésus affirme, je suis la résurrection. Jésus ne dit pas, je le ressusciterai. Jésus ne dit pas qu'un jour, lui-même sera ressuscité. Il dit, je suis la résurrection. Il faut bien comprendre la force de cette affirmation. Il est la résurrection. C'est-à-dire qu'il est victorieux, lui. Je suis Jésus en personne. Il est la victoire sur toute mort. C'est ça la résurrection. Il est la victoire sur toute souffrance, sur toute tristesse. Il est la résurrection. C'est très fort, ça montre que Jésus est pour nous la grande victoire de l'amour divin sur le péché, sur l'orgueil, sur toutes les conséquences du péché et toutes les attaques du démon. Il est la résurrection. Une résurrection personnelle, vous voyez. C'est le mystère du Christ, c'est la résurrection. Alors, est-ce que ça ne fait pas découvrir, puisqu'on doit toujours essayer de pénétrer plus avant, est-ce que ça ne fait pas découvrir le grand mystère de sa médiation et donc de son sacerdoce? Le sacerdoce de la résurrection. Le sacerdoce de la gloire. Puisque la résurrection, c'est la gloire. Puisque c'est la victoire de l'amour. Et donc c'est vraiment le grand mystère du sacerdoce du Christ. Dans sa médiation, il unit la nature divine et la nature humaine. Et la nature divine prend possession de la nature humaine d'une manière telle que la nature humaine est dans un état de gloire. Parce qu'elle est unie personnellement. Même si, pendant tout son pèlerinage terrestre, la nature humaine était capable de souffrir, était capable de tristesse et de la mort, c'était un effet de la miséricorde. Au-delà de la gloire normale que l'humanité sainte du Christ aurait dû connaître. Je crois que cette affirmation du Christ met en lumière, d'une manière très étonnante, la miséricorde du Christ. Vous voyez, normalement, c'est du reste ce que saint Augustin dit et ce que tous les pères de l'Église ont dit. Normalement, le Verbe unit personnellement, selon l'union hypostatique. Moi, vous retiendrez ça. Selon l'union hypostatique, la nature humaine unit dans cette union hypostatique au Verbe de Dieu, fait que la nature humaine devrait tout de suite être dans un état de gloire. Partager la gloire du Verbe. Et vivre de la gloire du Verbe, de la splendeur, de la beauté. L'amour qui est dans le Verbe de Dieu ne demande qu'à se communiquer. Puisqu'il y a une plénitude de grâce et de plénitude de gloire. Et donc toute l'humanité sainte du Christ devrait être dans la gloire. Je suis la résurrection. Je suis la gloire. Je suis la splendeur de l'amour. C'est tout ça qui est appliqué dedans. Mais par miséricorde, il veut être tout proche de nous. C'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. C'est le pain qui veut se donner en nourriture. C'est la porte. Vous voyez, on retourne pour mettre en pleine lumière ces trois grandes affirmations. L'agneau, le pain, la porte. Qui sont comme les trois moments, les trois modalités de cette miséricorde qui surabonde. Jésus accepte de ne pas avoir la gloire du Père dans son humanité pour être proche du pécheur. Jésus ne fait pas appel à son privilège de fils bien-aimé, qui est plus qu'un privilège. C'est ce qu'il est. Il accepte que ce soit comme voilé momentanément pour qu'il puisse être pleinement agneau, pain, porte. Je crois que là nous touchons dans cette dernière affirmation. C'est la dernière grande affirmation avant la dernière semaine. C'est pour ça qu'elle est si importante. D'une certaine manière, elle contient toutes les autres. Je suis la résurrection. Dites-vous ça souvent, hein, et vous verrez combien Jésus se donne à nous, quand nous affirmons cela, se donne à nous dans sa grande victoire d'amour. Quand on est tenté bêtement, vous êtes toujours tenté bêtement, je suis. Il est la victoire. Il est la victoire. C'est pas seulement, il n'est pas seulement victorieux. Il est la victoire. Il n'est pas seulement ressuscité. Il est la résurrection. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je parlais blancheur et blanc, quand je parlais liberté et acte libre, eh bien ici, nous retrouvons la formule abstraite, dite avec le « je ». Je suis la résurrection. Quand il s'agit de Dieu, on peut lui attribuer aussi bien l'abstrait et le concret. Dieu est la bonté. Dieu est bon. Dieu est la justice. Dieu est la vérité. Et il est vrai. Personne d'entre nous n'oserait dire qu'il est la vérité. On essaie d'être vrai. On n'est pas la vérité. Un jour, on sera ressuscité quant à notre corps, mais on ne pourra jamais dire « Je suis la résurrection ». Parce que Jésus, en disant « Je suis la résurrection », il est source de toute résurrection. Par sa victoire d'amour. Il est source de toute résurrection. Il est source de toute résurrection, donc de toute gloire, de toute splendeur. Et il nous montre comment celui qui est la résurrection cache sa splendeur pour être plus proche du pécheur, pour être avec lui, cheminer avec lui. Et comme il a caché sa splendeur auprès des disciples d'Emmaüs pour cheminer avec eux, pour être tout proche d'eux, pour les écouter, pour entendre ce qu'ils se disaient à Jérusalem. Parce qu'il n'était pas très présent au milieu de tous ces bavardages. De même, il a voulu cheminer comme quelqu'un qui acceptait de mourir pour être tout proche du pécheur condamné à mort. Je termine. Je voulais le faire il y a une raison de plus de le faire que le discours du pape arrivant à Compostelle a dit je suis la vérité, je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie. Dans la dernière semaine, le je suis du Christ, la voie, la vérité et la vie, vous retrouvez bien l'agneau, l'époux et Dieu. C'est la dernière confirmation qui nous aide à comprendre l'évangile par l'évangile. C'est l'enseignement suprême de Jésus dans saint Jean. C'est là où on trouve tout. Et c'est le Verbe de Dieu qui est présent au-delà de toutes les paroles et à l'intérieur de toutes les paroles. C'est le Verbe de Dieu qui est présent. Vous voyez, comme lorsque quelqu'un parle à quelqu'un qu'il aime dans sa parole et son amour, quand quelqu'un enseigne dans sa parole et sa pensée, et quand il s'agit de la parole divine, dans la parole divine, le Verbe est présent.
Nobis, postoque sibi.